En fait, il y a beaucoup de définitions différentes de ce que c'est la manipulation. Pour moi, la manipulation ne peut pas être éthique. Puis la raison, c'est que ma définition de la manipulation, faut qu'il y ait un mensonge. Que ce soit un mensonge par omission, pour qui pour moi est tout aussi un grand mensonge, qu'un mensonge, tu sais, carrément t'exagères les bénéfices, tu crées de la fausse urgence, tu crées un faux argument pour vendre ton produit ou ton service, ou tu caches quelque chose, tu sais. À ton client pour l'empêcher de prendre la meilleure décision pour lui. Pour moi, ça, c'est de la manipulation. La persuasion, si je l'oppose à la manipulation, ben oui, tu peux utiliser la manipulation pour persuader, mais tu n'es pas obligé de le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Ils se chevauchent, mais ils sont pas nécessairement intégrés l'un à l'autre, là, tu sais. C'est-à-dire que tu peux très bien connecter avec quelqu'un, raisonner avec quelqu'un, lui présenter des arguments, framer les choses pour qu'il comprenne, pour le mettre à ton avantage, etc., 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 sans mentir, puis sans omettre des informations importantes pour le client.
Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 84.
Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive, qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Salut les ambitieuses, bienvenue dans le 84e épisode de l'Ambition féminin. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode avec une de mes entrepreneurs favorites, ma biz buddy et aussi une personne que je respecte énormément. Et j'ai nommé Alexandra Martel. La raison pourquoi j'ai réinvité Alexandra sur le podcast, et je vais vous mettre naturellement les liens vers sa première venue, c'est que on avait des conversations, autant sur les réseaux sociaux, je me rappelle plus exactement où on l'avait, mais c'était à propos de l'éthique du copywriting et comment est-ce qu'on fait pour écrire, persuader, vendre en restant intègre, parce que depuis quelques temps, ben, le monde francophone n'échappe pas aux grandes modes de marketing qu'on a vu dans les dernières années beaucoup aux États-Unis, se développer aux États-Unis avec le email marketing, avec tout ce qui sont les funnels de vente ou les tunnels de conversion, avec les webinaires pour vendre, avec les lead magnets ou les aimants à clients comme on traduit souvent en français. Et Alexandra et moi, on a souvent des réflexions et des conversations autour de elle s'arrête où la ligne du désir qu'on fait miroiter à nos clients versus nos résultats aussi en tant qu'entrepreneur en termes de conversion, en termes d'acquisition de clientèle. Puis là, je vous donne un exemple. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, on regardait les textes d'une copywriter qui ont fait du tollé parce que elle disait des informations qui, par exemple, n'étaient pas vérifiées professionnellement par quelqu'un dans une expertise donnée. D'autres pourraient utiliser des salaires, comme par exemple dire « Ah, j'ai fait 400 000 $ dans mon année, et puis il n'y a aucune façon pour nous de vérifier si ce chiffre est vrai ou non. J'ai mis un exemple dans une publication de LinkedIn. J'ai fait 6 000 $ avec un seul courriel, une sorte de déformation un peu de la réalité. Donc, toutes ces tactiques qui sont destinées à nous faire ouvrir grand les yeux, arrêter ce qu'on fait parce qu'on nous promet justement soit des solutions miracles ou on nous met de l'avant un sentiment d'urgence qu'il faut agir immédiatement ou toutes ces autres tactiques marketing qu'on voit de plus en plus et qui commencent, on va se le dire, à fatiguer. Ben comment est-ce qu'on peut... Tu sais, qu'est-ce qu'on en fait, nous, en tant que créateur de contenu, en tant que quelqu'un qui veut justement connecter, vendre, mais aussi persuader, montrer notre valeur. Et qu'est-ce qu'on fait aussi quand les modes, les tendances de copywriting deviennent de plus en plus ubiquitaires? Donc, elles sont partout, on les voit partout, et puis le bruit, c'est de plus en plus difficile à percer le bruit parce que tout le monde commence à utiliser les mêmes techniques, les mêmes tactiques, les mêmes façons de faire. Donc, gros sujet de conversation, conversation deep, comme d'habitude, quand Alex et moi, on parle. Je vous ajoute depuis peu de temps aussi les transcriptions de l'audio. Donc, si vous allez tout en bas de la page sur les show notes, vous pouvez aussi avoir accès à la transcription textuelle de ce qu'on dit sur, dans le fond, sur la page de l'épisode. Et bon, pour celles qui ne la connaissent pas, je vais quand même la présenter en bonne et due forme. Alors, Alexandra Martel, elle aime les grues et sa machine expresso. Et elle aime aussi prendre des bains. Ce qu'elle déteste, écrire sa biographie à la troisième personne. Ça et le marketing plate. Ses formations sur la rédaction persuasive et le pricing stratégique ont été suivies par plus de 2500 entrepreneurs. Et voilà, donc je vous laisse sans plus tarder avec cette conversation-là et j'aimerais beaucoup ouvrir la discussion avec vous. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites dans le marketing en ce moment, des tactiques que pour vous c'est comme il faut absolument que ça cesse ou au contraire, est-ce que vous avez des fois plus d'idées de comment on doit s'adresser à notre public si on est déjà dépassé par ce qui semblait marcher hier. Et avant que j'oublie, j'ai failli complètement oublier de vous le dire, vous devez absolument vous inscrire au Festival Web de la création de contenu qui en est à sa deuxième édition cette année. Donc, le Festival Web de la création de contenu, c'est un événement pan web, je dirais, genre ouvert à tous ceux qui doivent créer du contenu, que ce soit professionnellement ou pour leur propre entreprise, ou même si vous êtes, je sais pas moi, attitré aux communications dans l'entreprise de quelqu'un en tant qu'employé. Bref, si vous avez à créer du contenu sur le web, c'est un festival gratuit qui a été organisé pour la première fois justement par Alexandra et qui va comporter une série de panels avec des experts invités qui vont parler de plein de facettes de la création de contenu, ainsi que cette année, pour la première fois aussi, des ateliers pratiques pour aller améliorer, chercher les idées, initier votre créativité autour de la création de contenu. Donc, ça se passe au festivalweb.cc. Je vais mettre le lien naturellement dans les liens de cet épisode. Mais vous ne pouvez pas manquer ça, ça va se passer du 5 au 9 juillet, donc très très bientôt. Vous pouvez dès maintenant prendre votre billet gratuit, ça va être l'événement de l'été sur le web, je vous l'assure. Donc sur ce, je vous laisse avec la conversation avec Alexandra. Salut Alex, bienvenue, re-bienvenue en fait sur l'ambition féminine. T'es une de mes premières invitées que j'avais reçues sur le podcast, donc je suis contente de te revoir aujourd'hui.
Ben oui, c'est vrai, hein? C'est gros, quel honneur!
Mais tu sais, on se parle souvent, mais c'est tout le temps le fun de... Je sais pas, j'ai tout le temps l'impression qu'on aurait dû enregistrer nos conversations des fois, parce qu'il y a tellement genre de trucs, de réflexions que j'ai avec toi que j'ai pas avec nécessairement beaucoup d'autres personnes. Fait que merci, merci d'être la personne que tu es.
Ben merci à toi, je prends le compliment.
Alors aujourd'hui, je voulais qu'on se parle de rédaction persuasive, naturellement, qui est ton sujet de prédilection, mais aussi de rédaction plus large, de marketing, un peu de ce que tu vois dans ton exploration depuis que tu t'es lancé comme copywriter aussi, puis des évolutions que tu as vues peut-être au niveau des types de rédaction qu'on voit. Fait que tu sais, j'ai plein genre de sujets que j'aimerais aborder avec toi, mais... Si on était pour commencer, je me dis qu'un bon point de départ, ça serait peut-être de remettre en contexte les auditeurs et auditrices sur, dans le fond, tu sais, tout ce que tu avais fait autour de ton article sur les égopreneurs, tu sais, c'est quoi ton problème avec le marketing actuellement?
Ouais, ok, bon point de départ. Donc, mon article sur les égopreneurs s'appelle « Personne veut lire ton maudit e-book ». Parce que pour moi, le e-book est un peu le symbole de tout ce qui va pas bien en marketing ces temps-ci, en fait. L'idée de créer un aimant à client gratuit avec lequel tu vas bâtir ta liste, aller chercher des gens, tout ça, c'est pas une mauvaise idée, c'est une très bonne idée, mais dans la façon dont elle a été exécutée répétitivement encore et encore et encore depuis, je sais quoi, genre 2008, 2009, mettons, ben c'est en train de devenir un petit peu prévisible et catastrophique. Et ce que j'entends par là, c'est que les gens créent des aimants à clients, des e-books, par exemple, gratuits de très piètre qualité, puis ils vont essayer de récolter les courriels des gens avec ça pour évidemment leur vendre leur formation, leur coaching, peu importe ce qui se cache en arrière. Et c'est devenu presque une caricature de la stratégie originale parce que les clients le savent, en fait. Les gens ont un bon détecteur de bullshit, que j'appelle. Les gens sont de plus en plus sensibles au marketing, sont de plus en plus éduqués au marketing. Puis, quand tu leur offres un e-book gratuit, ils se disent pas dans leur tête « Oh wow, quelle généreuse personne qui m'offre son e-book gratuitement ». Ils se disent « Bon, qu'est-ce que cette personne-là va vouloir me vendre en arrière, en fait ?»
Ouais, ça manque de finesse. On est
Ouais,
rendu
ça
que c'est
manque.
rendu un peu grossier.
Ça manque vraiment de finesse. En fait, c'est qu'on prend un peu les gens pour des jambons, là, tant qu'à moi. Puis le mot égopreneur vient en fait du fait que on applique des stratégies en les recentrant sur nous-mêmes, mais on a comme évacué presque notre client. T'sais, on n'arrête pas de parler de notre client idéal, de nos avatars, de nos personas, tout ça. Mais dans les faits, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus les coûts par lead, les taux de conversion, puis les stratégies genre lead magnet et ci et ça. Puis ça fait en sorte qu'on a du marketing qui est très égocentrique, peu efficace en plus, puis vraiment désagréable pour les gens qui le vivent et qui sont censés expérimenter ce marketing-là, I guess.
Puis penses-tu que les gens ont fondamentalement changé ou que c'était ces tactiques-là que parce qu'elles étaient nouvelles à ce moment-là, puis le web était un petit peu moins connu, tu sais, le degré de, je vais utiliser le mot manipulation, mais c'est pas nécessairement le bon mot, je pense ici. Est-ce qu'il était voulu dans les débuts de cette tactique-là? Puis là, maintenant, c'est juste parce que les gens sont plus connaisseur ou c'était vraiment parti d'une bonne intention, puis parce que des gens l'ont récupéré qui n'étaient pas empreints de bonnes intentions, justement, ben là, ça a floppé.
Je veux pas prêter des intentions aux gens, tu sais. Moi, j'ai déjà utilisé ces stratégies-là. Je pense que la majorité des gens ont déjà utilisé ces stratégies-là sans vraiment se poser de questions, en se disant c'est ce qui fonctionne. Tu sais, je pense que Joël Martel, c'est un chroniqueur au quotidien, là, un journal du Lac-Saint-Jean, mais Joël Martel qui a comme dit le premier, le terme far web, tu sais, l'expression en voulant dire. Le web a longtemps été une espèce de terre nouvelle où on pouvait faire un peu n'importe quoi, tu sais. Puis les lignes de ce qui était légal et illégal n'étaient pas encore bien définies au début, mais aussi de ce qui était éthique et non éthique n'étaient pas définies au début. Puis ça a donné lieu à vraiment beaucoup de belles choses, mais aussi à des dérapages. Puis pour moi, la manière dont on traitait les données, les courriels de nos clients, entre autres, c'était un bon exemple de dérapage et toutes les stratégies de lead magnet, de vente, etc., inspirées de ça, datent d'assez longtemps maintenant, là, puis tiennent pas nécessairement compte de la sophistication de tout ça. Tu sais, je pense vraiment que c'est un mélange de tout, mais en tant que société, puis en tant qu'utilisateur de l'Internet plus aguerri, on s'est comme aperçu qu'à force de donner notre courriel vraiment facilement à plein de gens, on se retrouvait avec beaucoup de spam, on se retrouvait avec beaucoup de choses désagréables dans notre boîte. Ça nous a sensibilisés, ce qui est en train de sensibiliser les marketeurs, tu sais. Puis c'est vraiment, je trouve ça intéressant parce que c'est pas comme si on sait exactement où est la limite. Tu sais, voici ce qui est éthique, voici ce qui l'est pas. On est comme en train de dessiner la limite, tu sais, en ce moment-là.
Ouais, puis je pense que c'est intéressant aussi de se pencher sur l'idée que il y avait peut-être aussi moins de saturation de contenu à ce moment-là, et les gens justement avaient le temps de lire un e-book. Puis je pense aussi en termes de pratique de rédaction, là en ce moment il y a beaucoup 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 de récupération de contenu des autres, tu sais, puis des fois, c'est justement, tu sais, tu dis des e-books de mauvaise qualité ou, tu sais, des lead magnets qui sont un peu comme bof, tu sais. Ça faisait qu'on se ramassait avec du contenu qui était juste un tease, tu sais. Juste comme, t'es en train de me dire que tu vas me donner toute cette information vraiment géniale et finalement, je suis en train de lire un résumé de la page Wikipédia que j'aurais pu lire par moi-même.
Ben oui, non, exactement. Puis là, tu mets le doigt sur quelque chose vraiment. Là, c'est que, tu sais, quand tout ça a commencé, il y en avait beaucoup moins des créateurs de contenu, puis il y avait moins de contenu sur Internet. Puis quand tu téléchargeais un livre blanc ou un e-book sur le site d'une entreprise, peu importe, tu te disais « Ah, waouh, je vais obtenir de la qualité ». C'était ça la base dans ton cerveau, là. Tu sais, tu t'attendais pas à ce que ce soit de piètre qualité. Puis on dirait que les choses sont inversées. Tu sais, maintenant, mes attentes, quand je donne mon courriel, quelque part, sont très basses. Je m'attends à ce que ce soit mauvais. Puis si c'est bon, je suis surprise, tu sais. C'est vrai. Je pense que t'as raison là-dessus. Il y a un phénomène un petit peu de saturation, là.
Puis, fait que dans le fond, est-ce que tu penses qu'on peut en faire du marketing, puis là, j'utilise le terme éthique, mais moi, j'avais noté ici intègre ou authentique, puis j'aimerais peut-être t'entendre sur qu'est-ce que tu penses de ce mot-là, puis est-ce que tu l'appliquerais au contexte du marketing?
Moi, j'adore le mot authenticité, j'en parle souvent, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent ces temps-ci, puis il y a beaucoup de gens aussi qui se plaignent du fait que beaucoup de gens en parlent.
Le discours est très méta en ce moment.
Ah ouais, vraiment, là, il y a des gens qui sont comme « Ah, je suis tannée d'entendre les gens parler d'empathie, de bienveillance, d'authenticité, pia, 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 pia. » Mais la réalité, c'est que s'il y a autant de gens qui en parlent, c'est qu'il y a un besoin, en fait. C'est que il y a vraiment un... Tu sais, on est en train de vivre un espèce de changement de paradigme, là. qui est majeur et dans lequel beaucoup de gens se sentent concernés et embarquent et veulent eux aussi, tu sais, être du bon côté, entre guillemets, tu sais, du côté un peu plus original, un peu plus authentique, un peu plus transparent aussi en marketing. Après, est-ce que ça peut devenir une espèce de truc vide de sens qui ne signifie rien dans certains cas? Oui, pour moi, c'est quoi faire du marketing authentique? C'est faire du marketing qui... Moi, j'aime mieux le mot transparence, en fait, quand on parle de marketing en tant que tel. Tu sais, pour moi, l'authenticité, c'est tout autre chose. C'est plus relié au soi, c'est plus relié à toi, ce que tu veux montrer, ce que tu veux pas montrer, qui t'es pas, etc., etc. Mais pour moi, la transparence, l'idée d'arrêter de d'omettre sciemment des informations pour essayer de pousser le client à poser une action X ou Y, ou d'inventer des fausses choses pour convaincre ton client de poser une action X ou Y, pour moi, ça, tu vois, c'est pas éthique. Ça va au-delà du débat, est-ce que c'est authentique ou pas, c'est pas éthique.
Puis, ce qui me mène à une question quand même fondamentale, qui est-ce que toute persuasion a pas un certain degré de manipulation, et est-ce que la manipulation est ou n'est pas éthique? Genre, est-ce que ça a un fondement éthique ou non?
Moi, j'ai mon opinion là-dessus, qui est mon opinion, qui est pas nécessairement la vérité, mais en fait, il y a beaucoup de définitions différentes de ce que c'est la manipulation. Pour moi, la manipulation ne peut pas être éthique, puis la raison, c'est que ma définition de la manipulation, faut qu'il y ait un mensonge. Que ce soit un mensonge par omission, pour moi est tout aussi un grand mensonge, qu'un mensonge, tu sais, carrément t'exagères les bénéfices, tu crées de la fausse urgence, tu crées un faux argument pour vendre ton produit ou ton service, ou tu caches quelque chose, tu sais, à ton client pour l'empêcher de prendre la meilleure décision pour lui. Pour moi, ça, c'est de la manipulation. La persuasion, si je l'oppose à la manipulation, ben oui, tu peux utiliser la manipulation pour persuader, mais tu n'es pas obligé de le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Ils se chevauchent, mais ils sont pas nécessairement intégrés l'un à l'autre, là, tu sais. C'est-à-dire que tu peux très bien connecter avec quelqu'un, raisonner avec quelqu'un, lui présenter des arguments, framer les choses pour qu'il comprenne, pour le mettre à ton avantage, etc., 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 sans mentir, puis sans omettre des informations importantes pour le client.
Je trouve ça super intéressant parce que je suis en train d'écouter une série qui s'appelle Call My Agent, puis ça se passe en France, puis c'est des agents d'artistes, tu sais, de grandes stars du cinéma, puis dans le dernier épisode, il parlait du fait que, tu sais, c'est une industrie du désir, tu sais, l'industrie du cinéma, puis l'industrie de savoir, tu sais, est-ce que tu vas travailler avec un agent ou avec un autre, puis qui va vraiment travailler avec les acteurs puis les réalisateurs, il y a tout un désir là-dedans aussi. Puis là, dans ce que j'entends dire aussi, il y a la notion de... dans le fond, c'est comment est-ce que la réalité est présentée par rapport au désir qu'on veut faire avoir à notre public. Puis c'est là que je trouve que la ligne est mince de savoir comme comment tu vas initier le désir chez l'autre. Puis là, on peut prendre n'importe quelle métaphore, genre de désir, autant genre dans le dating qu'ailleurs. Mais, tu sais, on dit souvent genre en amour, tout est permis. Tu sais, est-ce que dans le marketing, toi, tu sembles dire que non, mais il y en aurait d'autres qui pourraient dire que oui. Fait que, tu sais, la notion de désir est pas toujours un peu lié à la manipulation?
Je sais pas, moi j'ai pas l'impression, tu sais, est-ce que t'es obligé de mentir ou d'omettre des informations pour que quelqu'un trippe sur toi, sur ton entreprise, sur ce que tu fais? J'ai vraiment pas l'impression, puis tu sais, ce que je veux dire par omettre de l'information, c'est vraiment simple, là, dans les faits, c'est pas révolutionnaire ce que je propose. Je te donne un exemple concret, là. Quand tu donnes un webinaire gratuit sur un sujet dans l'intention de vendre une formation par la suite, pourquoi tu ne le dis pas?
Mm-hmm.
Si tu le dis, ben t'es pas en train de manipuler. T'as dit aux gens, tu vas t'inscrire à mon webinaire, je vais te donner tant de minutes d'information gratuite et après je vais te faire un pitch. Fin. J'ai testé ça avec des clientes. Assez tôt, là, genre on remonte en 2018 là, que je testais ça avec des clientes déjà, 2017-2018, puis tu sais, déjà à ce moment-là, on observait que les gens restaient plus longtemps à écouter le pitch du webinaire quand on annonçait dès le début puis sur la page d'inscription qu'il allait avoir un pitch. Pourquoi? Mmh. Parce que les gens se sentaient respectés puis n'avaient pas l'impression qu'on avait essayé de les manipuler, de les piéger pour qu'ils soient obligés d'assister à un pitch. Tu vois un peu la... La nuance que j'essaie d'apporter, fait que c'est juste que ma définition de la manipulation inclut de l'omission ou un mensonge. Donc si tu ne mens pas, pour moi, t'es pas en train de manipuler, t'es en train de persuader, puis il y a vraiment une différence entre les deux.
J'avais un exemple, puis bon, là on va pas rentrer dans tant de cas que ça, mais c'était vraiment un exemple, je trouve, qui était à la limite ou à cheval entre tout ça, puis ça rentre avec la discussion sur la divulgation de nos salaires ou de nos revenus, puis tu sais, beaucoup de gens maintenant commencent à dire, ben tu sais, oui, il y a les revenus, mais il y a aussi les dépenses, fait qu'il faudrait parler de revenus bruts, puis tu sais, les gens sont un peu plus à l'affût aussi de cette distinction-là, parce que souvent dans les... Je trouve le marketing qu'on entend, c'est comme « Hey, j'ai fait genre 10 000 $ en une seule journée grâce à genre blablabla, genre, t'sais. » Puis c'était un cas de quelqu'un qui faisait un pitch, qui faisait un webinaire, qui disait « Ah oui, grâce à mon podcast ou grâce à telle affaire, j'ai fait genre X 000 $, t'sais, X centaines de milliers de dollars. » Mais après ça, t'sais, moi, j'étais comme « Waouh, c'est quand même... » Je suis allée chercher mes sources. Je suis allée chercher mes sources parce que j'ai de l'intelligence, tu sais, qui est cachée un petit peu partout dans le monde entrepreneurial. Puis je disais, non, ça, c'est genre l'argent qui a été fait, genre, dans une, tu sais, dans l'espace de 4 ans, mettons, avec différentes business ou whatever, tu sais. Puis là, c'est là vraiment que je trouve ça difficile de. Puis que peut-être ce que je disais par rapport à le désir, tu sais. Est-ce que juste planter une graine comme ça, même si on n'est pas 100% genre, tu sais, je vais pas te montrer genre mes revenus bancaires pour que tu ailles vérifier ce que je dis, mais même si c'était faux, je t'ai quand même planté la graine de cette possibilité-là parce que même si ça marche pas pour moi, ça a marché. Tu sais, je veux dire... Je sais pas, j'ai l'impression que quand on joue dans le marketing, on est aussi dans une espèce de monde qui est pas nécessairement la réalité, tu sais.
Non, c'est clair. Puis ça, c'est définitif. Mais tu sais, dans l'exemple que tu as donné, on a quand même un mensonge par omission tant qu'à moi. C'est-à-dire que on a triché un petit peu pour montrer les revenus sous leurs meilleurs jours sans vraiment les contextualiser. Quelqu'un qui contextualise ses revenus puis qui est super inspirante, qu'on pourrait donner en exemple, c'est Geneviève Gauvin, tu sais, qui va plutôt nous parler de ses dépenses, de son brut, qu'est-ce qui se, tu sais, j'ai fait tant d'argent, mais regarde tout ce qui est allé à mes affiliés, regarde tout ce qui est allé dans mes dépenses. Ça, c'est beaucoup plus concret, puis ça l'empêche pas d'être inspirante puis de créer du désir. Pourquoi? Parce que, en fait, à la limite, là, moi, j'ai l'impression que les gens qui mentent, justement, ça finit par se savoir et se sentir. Puis encore là, est-ce que c'est plus persuasif? Je pense pas. Je pense que, si quelqu'un me fait une espèce de promesse de revenu hors contexte, ça a aucune crédibilité pour moi parce que je suis un public cible éduqué. Avant, ce qui arrivait, c'est qu'on avait un public cible qui était presque jamais éduqué sur ces enjeux-là, qui avait aucune sensibilité, aucun détecteur de bullshit pour ces choses-là. Donc, ce public cible-là pouvait être convaincu par des trucs genre regarde mes captures d'écran de mon Stripe, regarde pia. Mais ces gens-là vont se faire prendre une fois par un coach ou par un formateur qui a ce genre d'approche-là, puis s'il voit que les bottines suivent pas les babines, ben je veux dire, après ça, toutes les autres affirmations du même genre, ben ils vont les mettre dans le panier du « ça me semble pas vrai ».
Ouais.
Ce qui rend ça, dans les faits, pas mal moins persuasif que quelqu'un qui m'explique vraiment les choses telles qu'elles sont. Cette personne-là va avoir l'air vraie. Tu sais, par exemple, parler de ton premier lancement puis expliquer qu'à ton premier lancement, t'as généré 10 000 $, OK? Ben, crime, ça peut être vraiment plus inspirant pour quelqu'un qui a fait 0 $ avec un lancement que quelqu'un qui me donne des captures d'écran de son Stripe, là. Ce qui est vraiment loin de moi puis ce qui est pas nécessairement crédible. Puis à l'opposé, quand t'es à un certain niveau puis que tu cherches à augmenter ton revenu davantage, tu sais, mettons que t'es déjà dans les 6 chiffres puis que tu veux te rendre au million, ben, tu vas pas chercher des gens qui mettent des screenshots de revenus partout. Tu vas chercher des gens qui te semblent crédibles, justement, puis t'as l'impression qu'ils font pour vrai leurs millions, là. En fait, c'est ce que je revendique un petit peu, c'est l'intelligence des gens, là, au final.
Oui, puis t'as mis le doigt sur quelque chose d'important, qui est l'éducation de notre public, qui mène à comme une question que je veux te poser, mais je suis comme pas sûre à comment ça va tomber chez nos auditeurs et auditrices, donc je pense que c'est... Je veux juste le framer comme quoi qu'il y a rien d'insultant dans ce que j'essaie de faire, mais est-ce que tu vois des biais, des fois, qui sont soit culturels ou générationnels dans le type de marketing qui est comme « acceptable », entre guillemets, en termes de tactique qu'on pourrait mettre de l'avant comme ça?
Fois mille. En fait, c'est pas toutes les niches qui ont le même détecteur de bullshit, c'est pas toutes les niches qui vont avoir la même saturation aussi dans le marché. Tu sais, cette espèce de sensibilité-là au mensonge, on va appeler ça comme ça, puis à la manipulation, c'est pas quelque chose qui est inné, je pense. Je pense qu'à la base, on a tous tendance à croire les gens, tu sais, on est un peu naïf, je m'inclus là-dedans, là, 100%, là. On est un peu naïf, puis on a tendance à donner le bénéfice du doute aux gens, etc., etc. Fait que c'est plus avec le temps qu'un marché va se saturer, il va avoir des gens qui vont exagérer, il va avoir des fausses affirmations qui vont être faites, puis là, les gens vont devenir irrités et irritables à ces choses-là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ce qui explique qu'il y a des niches où il y a une hypersensibilité, comme le marketing, notre niche à nous, là, c'est horrible. Les gens sont très, 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 très sensibles, puis il faut vraiment être intelligent puis subtil un petit peu là pour réussir à connecter quand même. La santé aussi, c'est vraiment une grosse niche, c'est une niche où il y a beaucoup de marketing agressif qui a été fait à travers les années, puis là, on est en train de voir le retour du balancier, je trouve. Puis les finances aussi, qui sont peut-être les trois plus grosses niches en termes d'infoproduits, là, on s'entend, là, je parle spécifiquement d'infoproduits. Mais justement, si tu sors de ces niches-là, puis tu vas dans des trucs plus traditionnels, n'importe quoi, là, tu vends des planches à découper, ou tu vends... tu sais, ben là, t'auras peut-être pas nécessairement la même sensibilité. Par contre, moi, je pense que tu devrais quand même faire preuve de transparence, puis, tu sais, être authentique, entre guillemets, être bienveillant dans ton marketing, parce que ça marche mieux. tout simplement. Tu sais, moi, toutes les fois que j'ai fait des tests avec des clients, plus ou moins de transparence, c'est toujours la transparence qui a été la plus payante, en fin de compte, tu sais. Ouais.
Ouais, puis aussi, ce que je trouve peut-être difficile pour... pour les clients qui sont pas nécessairement des marketeurs, mais qui veulent faire du marketing de contenu ou qui veulent utiliser, tu sais, ce type d'approche-là de copywriting, c'est que ça prend aussi beaucoup de... Ça prend cette résonance, mais cette volonté de rentrer dans la tête de notre client aussi pour dialoguer avec eux, qui est quelque chose qui, veut pas, est un art, tu sais, c'est une aptitude, tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable non plus de communiquer à ce niveau-là, non?
Je sais pas, moi j'aurais tendance à dire que tout le monde a le potentiel d'y arriver, tu sais, c'est juste qu'il y a des gens qui sont un peu... Qui sont bloqués par toutes sortes de raisons, là, mais je pense que fondamentalement, en tant qu'humain, on est créé pour communiquer, c'est une des caractéristiques les plus profondes, tu sais, propres à notre espèce, entre guillemets, là, notre sophistication de communication, notre besoin de raconter des histoires, notre besoin d'expliquer, de connecter aux autres, d'être compris, de comprendre. Donc, pour moi, c'est juste de s'ouvrir à ça, puis d'arrêter, justement... Puis c'est un peu ça, finalement, mon article là, sur les e-books, c'est d'arrêter de voir ton client comme une transaction, un coût par lead, un taux de conversion, puis vraiment de le regarder comme un humain. Ta stratégie de... Puis ça a l'air niaiseux de dire ça, mais ta stratégie de persuasion là, va être vraiment plus profonde si tu te dis « Qui est l'humain que j'essaie de toucher? Qu'est-ce qu'il vit? » C'est quoi les différentes étapes par lesquelles il va passer, puis comment est-ce que je peux rendre ce parcours-là le plus agréable, délicieux, savoureux, plaisant, fun possible, tu sais. Pas mal plus que si tu te dis, bon, je vais faire un test AB pour voir quelle couleur de bouton marche le mieux, puis j'ai fait un e-book parce que telle personne m'a dit de faire un e-book, puis j'ai, tu sais, tu me suis un peu.
Ouais, absolument. Puis tu sais, on avait... J'ai eu la conversation autant quand on parlait de SEO avec Myriam Jessier, autant quand on parlait de UX avec Laura-Lee Moreau, tu sais, dans le sens, on en revient toujours là, on en revient toujours à comme, tu sais, l'écran, le web, les différents outils de communication, c'est pas supposé être des barrières, c'est juste des facilitateurs, mais au bout du compte, c'est vraiment d'humain à humain qu'on connecte.
Ben oui.
Est-ce que... Tantôt, on a parlé, bon, les histoires... Bon, je sais que toi, t'aimes pas du tout les timers de... Comment on dit ça? Les chronomètres d'urgence.
je déteste pas nécessairement les chronomètres d'urgence. je me suis fait une réputation pour détester l'urgence. Puis c'est... La raison pour laquelle j'ai une hypersensibilité à l'urgence, c'est que, comme beaucoup de personnes TDAH, j'ai un côté extrêmement impulsif. L'impulsivité, pour moi, c'est vraiment une caractéristique qui est dans le tapis. Donc, les achats impulsifs, c'est quelque chose que j'ai déjà fait par le passé. Puis je comprends très bien ce qui se passe dans la tête des gens quand tu leur crées de l'urgence. Puis la réalité, là, c'est que quand tu crées une urgence à quelqu'un, sa décision est moins éclairée. C'est juste un fait. C'est du bruit qui va empêcher la personne de prendre une décision aussi éclairée qu'elle aurait pu dans une autre situation. Est-ce que ça veut dire qu'on peut jamais faire d'urgence en marketing? Ben là, il y a quand même une limite, là. Moi, j'en fais de l'urgence, là, dans mon marketing, quand j'ai une cohorte, quand j'ai une bonne raison, entre guillemets, de faire de l'urgence. Ce qui me dérange, c'est quand c'est exagéré, là, tu sais, quand on invente des délais, puis des délais souvent très courts, tu sais, c'est pas de l'urgence genre t'as une semaine pour te décider, là, c'est de l'urgence genre, hey, t'as 15 minutes des fois pour avoir le coupon, ou t'as 48 heures pour prendre ta décision après avoir parlé avec le super closer fait pour te donner envie d'acheter au téléphone, tu sais. Pour moi, ça, c'est jouer un petit peu sur ces faiblesses-là, ces biais cognitifs-là qu'on a en tant qu'humain, là.
Non, je comprends. Puis c'est vrai que c'est des fois un peu malaisant à utiliser, même si d'un autre côté, tu veux rappeler, tu sais, les gens ont plein de choses à faire, fait que des fois tu leur rappelles comme, écoute, il faut prendre une décision maintenant ou jamais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres tendances que tu vois que t'es comme, bon, ça c'est un peu dépassé, ça a marché pendant un temps, tu sais, il y avait les e-books, cette histoire de lead magnet. Ben, parlant de ça, est-ce que les lead magnets, ça existe encore, ça s'utilise?
Les lead magnets existent encore, mais gagner la confiance des gens est beaucoup plus difficile qu'avant. C'est-à-dire que la transaction de donner son courriel a beaucoup plus de valeur qu'avant. Puis on le voit rien que dans les coûts que ça te coûte aller chercher des courriels par la pub, là. Je veux dire, ce que ça vaut, donner son adresse courriel à quelqu'un, ça a beaucoup augmenté parce que maintenant, les gens gardent leur courriel un peu plus jalousement. Puis, t'as des outils comme Mailinator, là, par exemple, que tu peux utiliser pour créer comme des courriels éphémères pour t'abonner à quelque chose, recevoir le freebie, puis pas être abonné, finalement. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, t'as plein d'outils comme ça qui ont été créés pour protéger le consommateur, en fait. Puis, pourquoi est-ce qu'on a ressenti un besoin comme ça de protéger le consommateur? C'est parce que les gens se sont fait prendre à plusieurs reprises, en fait. Les gens ont donné leur courriel en pensant obtenir quelque chose qui allait leur apporter de la valeur, ont trouvé que ça avait pas de bon sens puis que c'était juste un prétexte pour leur envoyer une grosse séquence de vente qu'ils ne désiraient pas du tout. Puis ça a créé cette espèce de fatigue-là dans les aimants à clients. Est-ce que ça veut dire que les aimants à clients, c'est plus bon puis qu'il faut tout jeter ça aux poubelles? Absolument pas. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut appliquer la règle de la cour d'école, là. Tu sais, fais pas aux autres ce que tu veux pas te faire faire. Puis genre, te demander, moi, quand je m'abonne à un aimant à client, qu'est-ce qui fait que je suis contente, que j'ai envie de le faire quand même, puis quand est-ce que je me sens respectée? Puis juste de faire la même chose pour ton client. Puis moi, j'ai beaucoup testé, puis ça aussi, ça fait longtemps que je teste ça, de ne pas demander le courriel, en fait. De distribuer des choses sans demander le courriel, puis de demander le courriel dans un deuxième temps. Par exemple, avec des quiz, j'avais testé ça avec des clients. Récemment, j'ai distribué un de mes e-books vraiment gratuitement, là, sans demander de courriel. Et je pense que c'est une façon de faire qui est plus efficace au final. La raison, c'est que les gens vont avoir un contact avec un contenu qui est de très grande qualité, 100% gratuitement, sans même donner leur courriel. Puis ça, ça crée une confiance qui est vraiment plus forte. Ils voient que ton contenu est de qualité. Puis par après, quand ils décident de s'abonner à ton infolettre, ben c'est pas juste pour recevoir le freebie, c'est pour avoir de tes nouvelles parce qu'ils ont aimé ce qu'ils ont consommé. Tu comprends un peu ce que je veux dire?
Ouais, puis c'est intéressant parce qu'on en revient un peu à la base de ce qu'était le marketing de contenu plus inbound, dans lequel t'attends que les gens, soit ils tombent sur ton site, sur tes profils de réseaux sociaux ou peu importe, et prennent la décision par eux-mêmes de te suivre pour X raison ou X raison, tu sais, puis qu'ils puissent avoir l'opportunité aussi de le faire sur des plateformes qui leur plaise, tu sais. Moi, j'aime ça. Moi, je dis tout le temps que, tu sais, je veux dire, sur Instagram, les gens, ils me suivent pour une certaine raison, tandis que j'ai mon blog, mon podcast, qui sont plus les attracteurs, genre, de ceux qui veulent de l'information régulière, tu sais, vraiment, tu peux y avoir accès publiquement. Puis l'infolettre, ben là, c'est vraiment le petit degré d'intimité dans lequel t'es comme, ben, on a connecté à plusieurs niveaux sur d'autres lieux, tu sais, sur LinkedIn, peu importe par ailleurs où. Et puis là, on passe au prochain niveau, dans le fond, tu sais. On passe au prochain niveau d'intimité.
Ouais, absolument. J'aime ça, comment tu présentes ça.
Nous, en tant que rédacteurs, marketeurs ou créateurs de contenu, là, tu viens de dire, bon, fais pas aux autres ce que t'aimerais pas te faire faire, mais ce que je trouve parfois qui est comme... Ce que je trouve compliqué, c'est, puis quand on est dans une position dans laquelle on doit donner à des clients des résultats, c'est de lui montrer, dans le fond, tu sais, c'est où la limite entre des tactiques que tu peux apprendre, par exemple, en termes de rédaction persuasive, en termes de marketing, et justement, assurer que cette éthique-là va rester intègre, parce que veux pas, même des choses que toi, t'es en train d'appliquer aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à te copier, puis ça aussi, ça va créer une fatigue, non? Fait que, comment est-ce qu'on peut vraiment bien faire sa job quand il y a quand même des attentes de la part du client qui aient des résultats de conversion?
Ouais, c'est pas facile, puis les gens ont souvent plein de fausses croyances par rapport aux conversions, tu sais, les gens sont convaincus que si tu mets pas de l'urgence, genre 48 heures, 15 minutes, ça vendra pas. Les gens sont convaincus que si tu dis aux gens qu'il va avoir un pitch de vente à la fin de ton webinaire, ils vont se déconnecter puis pas l'écouter. Mais dans les faits, c'est vraiment l'opposé qui se passe. Puis je trouve ça cool parce qu'ils commencent même à avoir une espèce de courant là vers plus de transparence du côté anglophone, en fait, là, chez les Américains. Entre autres, on parle beaucoup de dark pattern en UX. Je sais pas si t'as vu ça, mais un petit peu... justement les pratiques de pop-up, etc., qui capturent un petit peu le client, qui piègent le client, qui, tu sais, les pop-up où tu as le choix entre t'abonner ou « non, je ne veux pas améliorer ma vie », tu sais, un bouton comme ça, là. Il y a de plus en plus.
Si je trouve pas le X, je suis comme, moi, si je trouve pas le X de ton pop-up, je m'en vais.
Ah non, c'est, ça me rend agressif, tu sais, puis ça, c'est ça, il y a de plus en plus une critique qui est en train d'être formulée envers ces pratiques-là, mais aussi une étude de ces pratiques-là qui montre que c'est pas si efficace qu'on le pense. C'est-à-dire que si on fait un pop-up vraiment transparent, ou ce que les gens peuvent fermer, t'as des aussi bons résultats que si tu fais un pop-up, tu sais, vraiment, comme je viens de te dire, là, non, je ne veux pas améliorer ma vie, tu sais, ou des choses comme ça. De la même façon, je pense que c'est Blinkist récemment qui ont fait une étude de cas absolument fabuleuse sur leur abonnement. Dans le fond, c'est comme un service où tu peux avoir des résumés de livres, là, je sais pas si tu connais ça, c'est pas super important. Les abonnements qui se renouvellent automatiquement, c'est quand même un problème. Ça crée beaucoup, 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 beaucoup de frustration chez les gens qui prennent l'essai gratuit puis qui voulaient annuler avant l'essai gratuit, mais là, ils oublient d'annuler puis là, ils écrivent au support parce qu'ils sont fâchés, parce que ça a été chargé sur leur carte. Tu vois un peu le genre. Puis il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui vont miser sur ces gens-là qui oublie pour faire de l'argent, finalement. Puis Blinkist, il était tellement tanné de dealer avec le support des gens qui sont pas contents que ça ait passé sur leur carte, qu'ils se sont dit « on va essayer une approche plus transparente ». Ils montrent un timeline, ils envoient une notification 5 jours avant le renouvellement, puis juste avant le renouvellement. Ils demandent aux gens s'ils veulent être avertis avant le renouvellement, etc., etc. C'est super transparent, tu vas tester ça, c'est parfait. Puis non seulement ça n'a pas diminué leurs abonnements, ça les a augmentés. Puis moi, ça, tu vois, je trouve que c'est des preuves concrètes que la transparence, c'est pas un frein, c'est un accélérateur, c'est quelque chose qui va augmenter ton taux de conversion. C'est juste qu'on l'a pas encore assez testé. mais les gens n'aiment pas se faire prendre pour des idiots, tu sais, au final. Puis s'ils sentent qu'ils ont le choix, puis que t'es avec eux, puis que tu veux les aider à prendre une décision, mais que tu vas pas nécessairement insister, ben ils sont encore plus rassurés, puis ils ont encore plus le goût d'appeler ton closer ou whatever. Là, t'sais, moi, je déteste avoir des conversations au téléphone avec des closers, parce que je sais qu'ils vont être insistants et que je déteste être mise dans cette situation-là. Puis il y a plein de gens de notre génération, t'sais, les milléniaux puis les Z, qui détestent parler au téléphone avec des vendeurs au point d'éviter cette situation-là à tout prix. Puis pourquoi? Parce qu'ils ont cette espèce de peur-là, parce qu'ils ont déjà expérimenté ces situations-là, tu sais.
Non, c'est un vraiment bon point. Puis, est-ce que ça veut dire, dans un autre ordre d'idée, que dans le même ordre d'idée, mais que les rédacteurs, marketeurs et créateurs de contenu, justement, doivent... Parce que si on se démarque plus avec des tactiques, ou si les tactiques autres que la transparence sont plus vraiment les tactiques à mettre de l'avant, ben là, on en revient au contenu pur, non?
Exactement. Puis c'est ça, en fait, qui fait peur à une certaine frange, je pense, des marketeurs. C'est que, tu sais, ça me fait penser au Black Hat SEO dans le temps. Tu te rappelles de ça? C'était la grosse mode quand on était... quand moi, j'étais au secondaire, mettons. Là, ça, c'était très prévalent. C'est-à-dire que Google, ses algorithmes n'étaient pas encore super sophistiqués. Et donc, il y a des gens que leur travail, c'était de trouver des trucs pour éviter l'algorithme. Donc, bourrer ton site de mots-clés, cacher des mots-clés dans les méta-tags. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles de ces
écrire en blanc sur blanc avec du texte.
Ben oui, absolument. Là, c'était idiot. Tellement c'était vraiment idiot. Puis il y a des gens qui s'étaient bâti une carrière là-dessus, là, qui étaient payés pour faire ça, pour trouver ces petits stratagèmes-là, ces pièges-là, en fait.
Ça me fait tout le temps penser, tu sais, quand on est à l'école, puis là, t'as le dude qui est comme « Hey, j'ai trouvé, genre, une passe pour pas répondre à la question, pour faire... » Tu sais, t'as été tellement créatif pour trouver ta passe, t'aurais pu juste répondre à la question.
Non, c'est ça, genre, c'est n'importe quoi. Puis tu sais, éventuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Google a comme bouché toutes les failles, puis maintenant, c'est quoi en SEO qui fait que tu vas scorer? C'est ton contenu, c'est la valeur de ton contenu, et de plus en plus, puis ça va aller dans cette direction-là éternellement pour le futur, là. Je veux dire, si tu veux bien sortir sur Google, t'as intérêt à créer du bon contenu. Ben, la même chose va se produire. C'est-à-dire que si, au début, la transparence, c'est un facteur de différenciation. Moi, en ce moment, je jouis de l'impact d'être plus transparente, parce que j'ai tellement de compétiteurs qui sont pas transparents que les gens capotent, genre, puis me remercient de faire ce qui, tant qu'à moi, est le strict minimum. Mais mon espoir, c'est que d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, tout le monde va être rendu transparent, tu comprends? Parce qu'ils vont avoir compris que ça marche mieux. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui va rester pour nous différencier? Ben, nos produits, man! Ce qu'on vend, notre contenu, notre façon de nous exprimer, puis c'est là que la vraie persuasion rentre en ligne de compte, tu sais, c'est pas dans les tactiques puis les stratégies qui changent tout le temps, là.
Ouais, puis je pense que effectivement, c'est ça qui est difficile à apprendre, tu sais, puis n'est pas rédacteur ou copywriter ou créateur de contenu ou marketeur qui le veut bien, tu sais, puis je pense que c'est là aussi, ben, qui le veut bien, qui ne veut pas y mettre l'effort dans un sens.
Mm.
Puis je pense que c'est là aussi le, je sais pas, peut-être la mauvaise conception de c'est quoi la création de contenu. Tu sais, puis est-ce que c'est juste vraiment d'écrire puis de le publier, ou est-ce qu'il y a vraiment des, puis là, j'utilise le mot stratégie, mais je suis pas sûre que c'est ça vraiment que je veux utiliser, mais est-ce qu'il y a vraiment des façons de faire ou des façons d'apprendre à la... J'ai l'impression que ça rentre de plus en plus dans ce qui est un art comme dans l'art des artisans, tu sais. C'est quelque chose que tu apprends avec le temps, que tu développes, que tu deviens meilleur de plus en plus que tu le fais.
Ouais, non, puis tu sais, on revient à la notion de valeur, en fait. Tu sais, je pense qu'un des gros problèmes en ce moment, c'est que la notion de valeur a été évacuée au profit de parler des algorithmes, des taux de conversion, etc., etc., etc. Mais ultimement, qu'est-ce qui va faire que ton contenu va fonctionner? Ben, c'est est-ce qu'il apporte plus de valeur à ton client que le contenu de tes compétiteurs?
Mm-hmm.
Puis ça, c'est tellement quelque chose qui nécessite beaucoup d'empathie, de patience, de réflexion, tu sais, de créer du contenu qui va apporter une vraie valeur ajoutée, qui va vraiment créer quelque chose, tu sais, d'intéressant, finalement, pour les gens. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui créent du contenu pour cocher toutes les cases sur la checklist. Tu comprends ce que je veux dire?
Par habitude, ouais.
C'est ça. Mais ultimement, c'est pas ça le contenu qui va gagner. Le contenu qui va gagner, c'est le contenu qui apporte quelque chose. Puis quand je dis qu'il apporte quelque chose, c'est pas obligé d'être super éducatif, là. Mais soit qui divertit beaucoup, beaucoup, qui fait sourire, qui inspire, qui, tu sais, c'est ça ultimement qui l'emporte, là. Puis plus la compétition est grande, plus c'est les meilleurs qui vont en sortir gagnants, là, c'est certain.
Non, c'est intéressant, merci. C'est très pertinent aussi avec ce qu'on fait aussi at large en termes de, je pense, toi, de ton côté avec le copywriting, mais aussi tout ce que tu parles au niveau de la valeur puis le lien entre les deux, puis ce que je fais aussi en termes de notoriété de marque et de crédibilité. Est-ce que, juste pour terminer, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais, encore une fois, on en a parlé de plusieurs, mais des red flags, des trucs qui sont out à éviter, que tu vois de tu sais, que tu vois puis que tu te dis, bon, moi, genre, par exemple, sur LinkedIn, quand on n'arrête pas de me taguer, quand on tague 25 personnes, tu sais, je les vois, les tactiques, puis je trouve ça, je trouve que ça donne une mauvaise image de la personne, tu sais. C'est pas des grosses erreurs à faire ou des choses qui sont méchantes ou qui sont mal intentionnées, mais tu sais, ça me donne juste un petit mini feeling pas le fun, puis plus que ça continue, plus ce petit feeling pas le fun, genre, augmente, puis ça crée comme de l'irritation, comme t'as dit, tu sais. Fait que, est-ce qu'il y a des choses que toi, ils t'irritent particulièrement ou ces temps-ci, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le contenu en at large?
La chose que j'aimerais vraiment voir disparaître cette année, c'est les gabarits de copywriting traditionnels à l'américaine. Entre autres, commencer ta page de vente avec un interrogatoire d'avocat, là. Est-ce que toi aussi, tu te sens nanana? As-tu l'impression que nanana? Les questions, genre, plus capable. Puis c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que ça a tellement été répété, 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 que quand je vois ça, tout ce que je me dis, c'est bon, encore quelqu'un qui applique le même template, tu sais, ça, c'est vraiment fatigant. Puis c'est pas original, puis ça fait en sorte que toutes les pages de vente se ressemblent, puis c'est lourd, là, c'est vraiment lourd. Mm-hmm. Je suis tannée, puis pour moi, c'est rendu un signe d'amateurisme un peu. Tu sais, si je vois ça, j'ai pas l'impression que la personne qui écrit cette page de vente-là est formée, mettons, en copywriting, définitivement. Mais sinon, les petites modes, là, sur les réseaux sociaux sont le fun à observer, puis à voir aller. Je sais pas si c'est... Je sais pas si je veux aller jusqu'à les punir puis dire que ça a pas de bon sens de faire ça, mais tu sais, il y a des choses que même moi je faisais avant que je ne fais plus parce que je trouve que là c'est too much. Tu sais, les introductions un petit peu trop clickbait, là. Tu comprends ce que je veux dire, genre... Ou encore là, t'as un mensonge, au final. Tu sais, en fait, ce qui me dérange, c'est pas nécessairement que ton introduction soit intrigante puis clickbait, si le contenu est à la hauteur de... OK, je te donne un exemple. Quelqu'un qui me met un objet de courriel, genre t'as oublié ton chandail chez nous. OK, ben moi c'est sûr que je clique parce qu'en effet, j'oublie souvent mes choses chez mes amis. Puis là, si je me rends compte que c'est une compagnie qui essaie de me vendre des chandails, je vais comme vivre un sentiment de frustration plus que waouh, quelle bonne idée d'objet, tu sais, en tant que consommatrice. Donc, est-ce que c'est bon pour ta compagnie au final de faire ça? Probablement pas, et j'aimerais que ça cesse. Puis c'est pareil sur les réseaux sociaux, genre, si ta petite introduction est punchée puis capte mon attention, ben, il faut que le punch dans le texte soit à la hauteur. Capte pas mon attention avec quelque chose de super intriguant pour me faire une publication vraiment plate que j'ai déjà lue 1000 fois. Sans ça, tu vas m'avoir une fois, peut-être deux fois, puis éventuellement, tu vas créer une fatigue qui va faire que j'aurai plus envie de te lire. Puis ça, c'est la pire affaire qui peut t'arriver. Tu veux que les gens aient envie de te lire, peu importe c'est quoi l'introduction, parce qu'ils savent qu'il y a toujours un fond puis un contenu qui est intéressant dans ce que tu fais, tu sais.
L'intention, la création avec intention.
C'est c'est ça. Puis, tu sais, c'est un peu ça que je veux dire quand je dis de ramener l'humain dans ton marketing au lieu de te concentrer sur les trucs, les stratégies, tout ça. C'est vraiment cliché comme phrase de dire ramener l'humain dans ton marketing, mais je l'entends un peu au sens psychologique, là. C'est-à-dire, quand t'écris pas pour les réseaux sociaux, t'écris pour quelqu'un. Fait que peux-tu prendre 2 secondes pour te mettre à la place de cette personne-là puis te demander comment il va se sentir si je fais un clickbait de ce genre-là qui est pas payant par après, tu sais, qui est pas à la hauteur de... Ben, il va se sentir trahi, il aura pas de fun, tu sais. Vraiment, juste avoir cette espèce de réflexion-là un peu plus long terme, mettons moyen terme, sur l'impact de tes choix, ça peut vraiment améliorer ton marketing puis le rendre beaucoup moins dépendant des trends, puis beaucoup plus fondamentalement intéressant, tu sais.
Non, c'est fascinant. Ben, en tout cas, je pense que c'est vers là que les gens essayent de plus en plus d'y aller. Puis je pense que ça commence aussi avec d'enlever cette aura autour des... Tu sais, moi, souvent, les gens vont me dire « Ah, j'ai besoin de travailler mon storytelling. » C'est comme, tu travailles pas ton storytelling, tu sais. Tu deviens un storyteller où, tu sais, tu intègres ton histoire, où tu comprends ton histoire, mais tu sais, travailler ton storytelling, ça a tellement quelque chose de, genre, je vais travailler cet outil froid, genre, qui est distinct de tout ce que je fais, tu sais, c'est comme non. Puis je pense que le marketing, c'est un peu la même chose, c'est comme, tu travailles pas ton marketing, tu travailles comment tu communiques ta valeur, tu travailles qui tu es dans le monde, tu travailles, ta business et ton offre, tu sais.
Tellement, mais... comment t'es perçu par les autres, c'est quoi ton intention, ça c'est des vraies bonnes questions à se poser. En fait, tu mets vraiment le doigt dessus, Tatiana, c'est que j'aimerais que les gens soient moins marketeurs puis plus philosophes un peu.
Exact.
Arrêter de se poser des questions genre comment je peux faire baisser mon coût par lead, puis à la place te demander comment je peux faire en sorte que ce soit super le fun à chaque fois lire mon infolettre. Comment je peux faire en sorte que ce sujet-là qui me tient vraiment à cœur intéresse aussi mon public cible? Comment, tu sais, ça, c'est des questions importantes qui vont faire une vraie différence dans tes résultats, pas mal plus que de respecter à la lettre la checklist parfaite du parfait marketeur de contenu.
Ouais. C'est une belle finalité pour notre conversation, je pense. Alexandra, où tu veux que les gens connectent avec toi s'ils ne le sont pas encore? Je sais que tu as déjà une assez grande communauté, mais on va les pointer vers les bonnes ressources. Premièrement, ton article que je vais mettre en lien naturellement.
Ouais, mon article en 5 parties. Sinon, je suis très active sur LinkedIn. Je fais à l'occasion des stories sur Instagram où je rigole un peu plus. Là, c'est moins sérieux pour moi comme réseau. Mais vraiment, c'est ça. LinkedIn, Instagram, mon site web, lesmotspourvendre.com. Et à l'automne, je vais publier un livre sur le pricing de valeur. Donc, je me permets de le plugger, dépendamment à quelle date tu écoutes ce podcast. Si tu te questionnes sur ta valeur, tes prix, ce que tu apportes concrètement à tes clients, c'est vraiment un livre qui va être très utile à beaucoup de travailleurs autonomes, je pense. Septembre,
puis on s'abonne à ton infolettre pour être sûr qu'on va être au courant quand ça va sortir.
Absolument.
Bon, merci Alexandra, merci de ton intelligence, de tes réflexions, d'avoir poussé le sujet et de faire aussi, de pousser dans le quotidien, dans le fond, les réflexions autour du marketing et de la rédaction et de la valeur en long et en large. Donc, je te souhaite une super belle journée, puis je te reparle super bientôt.
À bientôt.
Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!